Marlène, je travaille à Toyota, je suis une des 360 000 members, hein, c'est comme ça que je vous appelle d'abord, en fait salariés du groupe au niveau mondial. L'année dernière, le groupe Toyota a annoncé 21 milliards d'euros de bénéfices. Ça faisait plus de 58 000 euros de bénéfices annuels par salarié, nettement plus que le double de mon salaire brut annuel. Pour les travailleurs philippins, du groupe Toyota, ça doit faire entre 6 à 7 fois leur salaire annuel. Et cette année, le bénéfice du groupe Toyota est encore de 15 milliards d'euros. Alors un peu moins donc, mais ça fait encore plus de 40 000 euros de bénéfices annuels par salarié. Vous voyez donc, l'argent existe. Il y en a même beaucoup. Mais quand on refuse la moindre augmentation, que la direction rabote même les primes, alors que les actionnaires de Toyota se partagent des milliards de bénéfices. Ça, c'est pour le groupe Toyota. Mais pratiquement toutes les grandes entreprises accumulent des profits fantastiques. Et si certaines sont en déficit, il faudrait regarder de plus près pourquoi. À Toyota Ona, l'usine a été en déficit pendant plusieurs années. Alors qu'on a produit plus de voitures que ce que le plan initial prévoyait et que la Yaris se vend très bien. Eh bien, tout simplement, tout cela est possible. À Toyota Ona vend à Toyota Bruxelles les Yaris environ 10 000 euros pièce. Donc en dessous du prix de revient. Mais la même voiture est revendue à de 15 000 à 19 000 euros au client. Bien sûr, il y a les frais commerciaux, la TVA, mais il y a surtout les supermarges récupérées par Toyota Bruxelles qui remontaient dans l'ligne directe vers les actionnaires. Il y a bien d'autres magouilles comptables qui permettent aux actionnaires de récupérer d'énormes profits tout en mettant les usines en déficit ou proches du déficit. C'est pour cela qu'il faut que les travailleurs prennent conscience qu'il faudra se donner les moyens de publier les vrais comptes de l'entreprise. Les ouvriers qui gèrent les entrées de pièces ont une partie des informations. Ceux qui s'occupent des sorties de voitures ont une autre partie des données. Les employés qui tiennent la comptabilité bancaire en partie des données. Et en regroupant ces informations et en les publiant, on saurait combien coûte l'entretien de cette minorité d'actionnaires qui ne font rien et qui s'enrichissent délusurément. Oui, ce sont les travailleurs, les ouvriers, les employés, les techniciens, les ingénieurs qui font tout et qui sont en droit de bénéficier des richesses qu'ils produisent. Les actionnaires, les patrons qui empochent les bénéfices, la société pourrait s'en passer. Ils sont inutiles. Cette course aux bénéfices, cette concurrence entre les entreprises se traduit par une aggravation des conditions de travail. Continuellement, une pression est exercée sur le manager pour supprimer les postes, pour surcharger les postes de travail qui restent, pour accélérer la cadence de la chaîne. Au bout du compte, ça se traduit par des tendinites, des maux de genoux, au dos, au bras. On voit qu'au bout de quelques mois, certains quittent l'usine, quitte à se retrouver au chômage, parce que leur corps ne supporte plus ces conditions de travail infernales. D'autres quittent au bout de quelques années. Et comme il y a un fort taux de chômage, la direction de l'usine réussit à trouver du sang neuf, bien sûr. Mais elle doit quelquefois aller chercher des ouvriers de plus en plus loin. Ce qui fait qu'en plus de la fatigue du travail, il y a la fatigue de la route. Et aux accidents d'une machine dans l'usine, s'ajoutent les accidents de la route. Tout ça, le chômage, la précarité, la difficulté du travail, concourent à ce que l'individualisme prenne le dessus dans les ateliers. Chacun essaye de tenir individuellement. Et les chefs jouent là-dessus. Ils montent les uns contre les autres, font jouer la concurrence. En tant que militant syndical et politique dans l'entreprise, on peut avoir l'impression que c'est fini. Qu'il n'y aura plus de solidarité, qu'il n'y aura plus de conscience collective. Et certains vont jusqu'à tout laisser tomber. Et puis, comme par miracle, en quelques heures, le climat change. Le collectif reprend le dessus, un nettoyage a eu lieu, et parfois même une grève de plusieurs centaines d'ouvriers ou d'ouvrières, comme il y en a déjà eu trois depuis le début de l'usine. En fait, il n'y a pas de miracle, pas plus qu'ailleurs. C'est simplement que la conscience collective est enfouie sous les problèmes individuels et qu'elle revient à la surface quand ça déborde. Quand le mécontentement déborde, tout le monde sait à l'usine qu'on ne peut pas se défendre individuellement. Dénoncer le harcèlement d'un chef, exiger un poste moins dur, demander une augmentation de salaire, tout le monde sait que ça se conduit au licenciement plus ou moins rapidement. Alors, pas de prix.
plaine, il se trouve toujours un ouvrier ou une ouvrière pour s'opposer et proposer de s'organiser collectivement pour se défendre. Et alors, la conscience collective reprend le dessus. Par expérience, on sait que ce ne sont jamais ceux qui ont fait le choix de militer au syndicat ou de militer politiquement qui déclenchent ces luttes, qui changent l'état d'esprit. Par contre, les militants compétents sont utiles pour expliquer aux novices de la mobilisation les pièges que tendent les chefs, la direction et aussi les syndicats liés à la direction, pour diviser les travailleurs, faire des provocations et orienter vers des impasses. Le rôle des militants ayant une ancienneté, c'est de transmettre les expériences passées et d'aider à ce qu'un mouvement s'organise démocratiquement pour être fort. Et transmettre l'expérience du mouvement ouvrier, transmettre l'expérience de la lutte de classe, transmettre la conscience ouvrière, aider à s'organiser démocratiquement, c'est ça qui est important. C'est le rôle des vrais militants syndicaux et leur rôle de militants politiques. Il n'y en a plus beaucoup de ces militants, depuis que le PC s'est effondré. La direction du PC ne leur donnait pas une orientation politique juste. Elle les mettait à la remorque des illusions électoralistes, à la remorque du PC, du PS, pardon. Mais dans les entreprises et les quartiers, ces militants étaient souvent une référence, un point d'appui pour les travailleurs qui se posaient des questions, des travailleurs qui cherchaient à s'engager dans l'action militante. C'est cela que nous cherchons à reconstruire, pour qu'il y ait à nouveau un mouvement parti ouvrier. C'est un des objectifs que nous avons en participant aux élections, l'élection présidentielle et ces élections législatives. Les 320 000 électeurs de Nathalie Arthaud ne seront bien sûr pas tous des militants, ça se saurait d'ailleurs. Mais demain, ou après-demain, quand il y aura un nouvel élan combatif dans toute la société, à l'image en grand de ce qu'on a connu dans l'usine, c'est là que les électeurs de lutte ouvrière joueront un rôle. C'est eux parce qu'ils sont convaincus que ce ne sont pas les élections qui changent la vie, mais la conscience et la mobilisation des travailleurs qui seront les canaux par lesquels passera l'organisation de réseaux de militants et la transmission de l'expérience acquise. Une partie de ces électeurs deviendront des militants d'une mobilisation. Une partie de ces électeurs mettront des militants spontanés, sans expérience, en contact avec les militants les plus aguerris, et la confiance acquise sur le plan politique à travers les élections où ces travailleurs peuvent mesurer qu'on ne se laisse attirer par les sirènes réformistes, ni par les bonnes places, sera fondamentale. Cette confiance se permettra de transmettre en quelques jours, en quelques semaines, ce qui aujourd'hui les amener à circuler. C'est pour cela qu'il est important qu'on se présente aux élections. Alors qu'on sait qu'on ne sera pas élu. C'est pour cela qu'il est important de profiter de ce mouvement où beaucoup de travailleurs se posent des questions, de discuter le plus largement possible pour faire connaître le programme communiste révolutionnaire. Et maintenant, à mon tour, je passe la parole à Éric.